va essayer d'analyser un peu la situation en Côte d'Ivoire, l'évolution de cette crise-là, d'où elle vient, avec en compagnie au téléphone Aziz Fall, politologue. Donc, bonjour Aziz Fall. La situation en Côte d'Ivoire, qui était exemplaire au début des années 90, est devenue rapidement catastrophique. Il y a eu un coup d'État, la situation s'est dégradée. Maintenant, bon, la Côte d'Ivoire semble avoir rejoint, bon, de près ou de loin, les autres économies africaines dans une crise sans fin. J'aimerais qu'on entre dans l'évolution de cette crise-là. Comment peut-on expliquer cette crise-là? Où a-t-elle commencé?
En réalité, c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui c'est une des turbulences que nous voyons aujourd'hui. Et le miracle ivoirien, en réalité, est un mirage. C'est un pays qui, il faut le rappeler, est quand même le plus grand producteur mondial de café et de cacao, en tout cas dans le peloton de tête. C'est un pays qui est fortement endetté, plus de 20 milliards de dollars, et qui a fonctionné sur ce qu'on peut appeler le mode néocolonial de croissance. Et donc, il est de nouveau menacé par cette spirale de violence. Il faut dire que l'espoir qu'avait apporté à l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, l'actuel chef d'État, dévoile les problèmes qui ressurgissent au moins de turbulences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la stabilité de la Côte d'Ivoire dans ses 20 premières années de prospérité et de stabilité sont issues d'un alignement sur l'Ouest et sur le marché. Cela s'est fait cependant, et ça ne se dit pas souvent, au prix d'un despotisme néocolonial, du surendettement, de l'enrichissement illicite, mais aussi de l'aléa des prix du cacao, du café dans l'échange inégal, le fait que les petits planteurs étaient complètement délaissés, le fait que les disparités entre villes, les bidonvilles et campagnes étaient très prononcées, le fait qu'il y avait eu une tentative d'industrialisation, d'import-substitution à faible rentabilité qui n'a pas vraiment fonctionné, et surtout une très grande dépendance vis-à-vis de l'expertise et du capital étranger, et surtout de la main-d'œuvre étrangère de la sous-région qui a aidé à bâtir donc ce fameux miracle ivoirien. Tout cela tenait sur une sorte de mosaïque socioculturelle qu'on peut appeler l'ivoirité et qui elle-même doit s'expliquer par le fait que la Côte d'Ivoire de Oufouet-Boigny a beaucoup contribué à saborder la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest, qui aurait été normalement le grand État confédéral qui précédait les indépendances, et la Côte d'Ivoire, ayant beaucoup travaillé à avoir son petit micro-État, a réussi à construire en son sein une sorte de cosmopolitisme, si vous voulez, ivoirien, où l'ivoirité était donc transcendait les nombreuses ethnies et populations des environs. Donc c'est un État planteur, avec un embryon de bourgeoisie locale très puissant, avec une classe-État qui investit parfois dans les secteurs porteurs de croissance et qui en bénéficie.
Oui.
Toute cette période-là est très très bien jusqu'à ce que, bon, évidemment, avec l'enrichissement illicite, la gestion peu transparente de quelques 254 sociétés d'État qui ont plus servi les pouvoirs locaux et les 50 familles régnantes, alors le pays petit à petit apparu plus comme un mirage qu'un miracle, et il a été soumis aux ajustements structurels. Et c'est là que véritablement la descente aux enfers commence, parce que les ajustements structurels de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international montrent que s'il s'agit plus qu'une crise d'une économie de plantation. Au début, la Banque mondiale accepte que certains fiefs de la régulation politique, donc la caisse de stabilisation, la caisse de péréquation, les autres lieux de rente ne soient pas privatisés, mais très vite, il faut les privatiser. Et à partir du moment où le système d'État s'effondre, et ça tombe en même temps à la fin de règne de Oufouet-Boigny, qui malgré tout se lance dans des grandes dépenses, par exemple, il fait la réplique gigantesque de la basilique Saint-Pierre de Rome dans son village natal, en fait en plus grand. Donc ça vous donne un peu le contenu surréaliste de ce fin de régime. Et arrivent les événements de Yopougon, qui sont donc la révolte universitaire de 1991. Et la personne qui réprime ça, c'est le général Gay. Il les réprime de façon très cruelle et il apparaît comme le tenant de l'ordre. C'est ce qui fait que lorsque Oufouet-Boigny meurt en 1993, sans achever son mandat, eh bien Robert Gay, malgré le fait que la Constitution permette à Conan Bédié, le chef de l'Assemblée nationale, d'achever le mandat de Boigny, il est toujours en dernier fond et Conan Bédié ne parvient pas à gérer l'économie, surtout que c'est le quatrième programme d'ajustement et il est plus sévère que tous les autres. 1995, et ça sonne le glas de la légitimité de l'État.
Oui. Si on avait à juger de la responsabilité des organisations internationales, quelle serait-elle là-dedans?
Ben, comme je l'ai dit, c'est eux qui déstructurent l'État. C'est qu'à partir du moment où ils se rendent compte que malgré les privatisations et la mise sous coupe de l'ajustement structurel, ça ne marche pas, ils se lancent dans un programme de gouvernance, donc qui une sorte de banc d'essai. La Côte d'Ivoire fait figure de banc d'essai avec le Sénégal, le Zimbabwe, de ce fameuse gouvernance, transparence de l'État, réduction de l'État au minimum, privatisation des secteurs, etc. Et pour un pays qui était en fait une sorte de capitalisme d'État, ça a été fatal. Et donc entre 1990 et 1995, le poids de l'État dans le secteur formel est passé de 50% à 20%. Et celui des privés ivoiriens et français a doublé, soit est passé de 24% à 23%. Et donc, à cette faveur-là, l'architecte des programmes d'ajustement structurel, au début Alassane Ouattara, qui était le premier ministre et qui vient du nord du pays, s'est lancé dans la course présidentielle. Il va être le prétexte de des changements constitutionnels sur l'ivoirité. On va lui nier son ivoirité et ça va poser tout le problème aussi du changement constitutionnel du septennat présidentiel jusqu'à l'âge de 75 ans pour Bédié. C'était les dernières tentatives donc du successeur de Houphouët-Boigny de rester au pouvoir. Et c'est dans cette circonstance-là que les militaires impayés, le soir de Noël 1999, dans une grogne tout simplement de militaires, transforment un État qui pratiquement n'existe plus en coup d'État. Et malgré sa brutalité, Robert Gay apparaît très vite comme l'homme de l'ordre. Malgré ça, pendant toute l'année 2000, ça a été plus beaucoup de turbulences qui ont gravement, endommagé l'homogénéité nationale du pays. Parce qu'on reprochait aux Krous, par exemple, aux Burkinabés, qui sont installés là depuis 50 ans, de perturber la coexistence de 40% de musulmans, de 30% de chrétiens. Oui. On a attisé les violences entre nordistes et sudistes. Et tout cela, comme je vous dis, s'est conjugué avec les programmes d'ajustement. C'est ce qui fait qu'aux élections, la gauche, le Front populaire ivoirien, est revenu sur la question de l'ivoirité. Il va cautionner l'ivoirité pour rafler les voix. Il va battre seulement avec, je pense, 59% des voix Robert Gay. Robert Gay n'a jamais accepté cela. Et dans son baroud d'honneur, il va se retirer avec 400 de ses fidèles à Kabakouma. Et finalement, c'est de là qu'il a continué à ruminer sa vengeance.
Oui.
Apparemment, il a récidivé son coup de 1999. Et là, selon les nouvelles que nous recevons des dépêches, lui et son plus féroce ennemi, le ministre de l'Intérieur, Émile Bogadoudou, seraient morts avec toute une dizaine d'autres personnes.
D'accord. Ben, Aziz Fall, on va suivre la situation avec un peu plus d'informations maintenant en tête. Alors, merci beaucoup pour ces informations.
Bon, merci.